Au revoir.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
On tourne la scène des adieux.
Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est la dernière
émission nocturne en direct.
Eh dis donc, à l'année prochaine.
Faire carrément sauter devant vous, maintenant là en direct, le studio.
Bonjour Rémi.
Bonjour Colline.
Affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Akarimasio, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez D'étoiles plein les yeux, votre magazine de cinéma sur Transistor qui revient pour son 122e numéro. Aujourd'hui, on parlera de Parasite, le film de Bong Joon-ho, tout récemment auréolé d'une palme d'or, et puis on continuera avec quelques mots sur Douleur et gloire de Pedro Almodovar, film où le réalisateur revient sur toute sa carrière et ses angoisses cinématographiques. On terminera aussi avec quelques mots sur Sibyl de Justine Strier, pardon, on va y arriver, où Virginie Efira livre une prestation tout à fait épatante. Mais donc la toile cette semaine, c'est Parasite. Les yeux, ce sont ceux de Titouan, Colline, Félix et Arthur. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
돈이 좋은 실력으로 왜 믿음이 맨날 떨어지냐?
아, 죽을래.
서울대학교 문서 위주 아까 뭐 이런 거 없나? 나 이 기정이에 수석이 봐야겠다.
저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요.
참으로 시의 적절하다.
풀타임을 앞서 어떻게 하시는지. Is it okay with you?
Voilà un petit aperçu dans l'ambiance de ce film où une famille pauvre coréenne parasite justement petit à petit une riche famille et s'introduit, s'immisce dans les moindres interstices de sa maison et de sa vie jusqu'à un certain nombre d'événements sur lesquels évidemment on ne reviendra que de façon relativement masquée, mais donc c'est un mélange d'une espèce de thriller qui tirerait presque sur l'épouvante et puis d'une satire sociale absolument sardonique comme on l'a entendu. Mais avant de revenir un peu plus en détail sur ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé, Colline?
J'ai trouvé ça absolument magnifique, ça m'a fait rire, ça m'a fait peur, j'étais 100% avec eux et ça m'a énormément plu comme film.
Félix?
Moi aussi, ça m'a énormément plu. C'est toujours bizarre c'est toujours délicat de porter son jugement sur un film qui a été récompensé d'une palme d'or, parce qu'on se dit, effectivement, il a été récompensé et pas pour n'importe quelle raison. Dans quelle mesure ça va influencer mon propre jugement, malgré ces réserves que j'ai émises? C'est un film que j'ai aimé vraiment de bout en bout, de la première seconde à la dernière seconde du générique. C'est un film qui a une direction magnifique, qui a des acteurs absolument fantastiques, un scénario parfait, une musique parfaite. J'ai beaucoup apprécié.
Dis-toi.
Moi, je sais pas vraiment si j'ai apprécié ou non, parce que effectivement, moi-même, je suis allé le voir parce que c'était la Palme d'Or. C'était le premier film que je voyais de ce réalisateur, et j'ai trouvé que le scénario était incroyable, extrêmement alambiqué, saugrenu, et en même temps, le réalisateur retombe sur ses pattes, c'est parfaitement ficelé. Mais oui, ça me laissait un sentiment assez... En fait, on est pris dedans, mais ça me laissait un sentiment paradoxal, à la fois très intense et en même temps, un peu désorienté. Sachant qu'il y a absolument pas... On ne peut pas s'identifier aux personnages. J'ai trouvé que les anti-héros comme les héros, en fait, on ne savait pas où se placer. Et donc, ça mettait le spectateur dans une situation délicate, mais donc prenante.
Ouais, on n'est pas à l'aise, hein. mais quel film, quel énorme morceau de cinéma, et Bong Joon-ho, et ça fait un certain nombre de films qui méritaient la récompense suprême, comme on dit, mais là on attend effectivement une espèce de d'acmé dans son cinéma. Ça y est, tout y est, quoi. C'est vraiment brillant. Enfin, je veux dire, t'as énuméré un certain nombre de choses, Félix. Effectivement, c'est réussi du début à la fin. Ce film, on le vit un peu comme un mauvais pressentiment de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel du film est pas tant constitué par... Enfin, effectivement, les événements s'enchaînent et on sait qu'il va y avoir une explosion parce que c'est aussi comme ça que ce cinéma fonctionne. Mais je trouve que le plus talentueux est presque dans tout ce qui nous conduit là, dans tout ce qui nous fait imaginer à l'avance comment ça peut exploser, comment ce petit monde qui s'effrite petit à petit va pouvoir d'un coup pouf, éclater. Et dans les moindres petits détails, il y a une précision de la mise en scène. Je pense entre autres à je sais pas, une petite giclure de sauce rouge sur une pizza qui en dit plus qu'un Godard entier. Enfin, je veux dire, c'est vraiment surpuissant dans la mise en scène.
Ouais, c'est très très fin. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu disais, Titouan. C'est ça qui m'a le plus plu et le plus touché dans ce film, c'est cette façon qu'il a de nous balader dans nos sentiments pour tous les personnages. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout à fait sûr de si on les apprécie, si on est pour eux, si on les comprend même. Et je trouve que ont cette ambiguïté et ils sont vraiment tous sur la ligne de crête. Ils basculent de temps à autre d'un côté, de l'autre, et même à la fin, on n'arrive pas à les juger, en fait. Ils sont injugeables parce qu'ils sont multiples, et ils ont ces multiples facettes qui font que ce sont des personnages extraordinaires.
Ouais, exactement. Mais du coup, quand tu sors de la séance, ouais, je sais pas toi, mais moi j'étais complètement... Ouais, à l'envers, je me disais, mais... Et jusqu'au dernier moment, je me disais, mais attends, finalement, c'est qui les gentils? Moi, je pensais pas que ça allait, du coup, capoter à la fin. Enfin, je sais... Ouais, non, je sais pas. On sait pas. Après, il y a différentes manières de capoter. Je peux pas divulgâcher.
No spoiler.
Ouais. Mais donc, voilà. En tout cas, si jamais... une œuvre d'art... enfin, une œuvre de cinéma, ça se juge à l'état... dans lequel se met le spectateur, cet état du coup de confusion, eh ben, on peut dire que c'est un film réussi, assurément.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, sur le fait qu'il n'y a absolument pas de jugement sur les personnages, je trouve que c'est là que c'est un cinéma coréen qu'on observe depuis maintenant, se déployer un peu depuis au moins une vingtaine d'années, ces cinéastes Park Chan-wook, Bong Joon-ho, qui... Et là, on atteint vraiment un stade où ce cinéma s'affirme comme étant d'abord un cinéma social. Et c'est ça que je trouve très fort, cette espèce de basculement à un moment à la fin du film où y a un moment où le film pourrait s'arrêter, où on voit une espèce de signal dans la nuit qui pourrait être une espèce de fin poétique qui termine le film et qui en ferait une farce sur fond de satire sociale. Mmh. Et on a un épilogue où Bong Joon-ho choisit résolument de placer le film dans le registre du social, dans le registre d'une véritable confrontation de classe, dans le registre d'un enfermement aussi des classes entre guillemets inférieures dans leur merde au sens propre à un moment du film. Et là, il y a quelque chose de très très fort dans la façon dont ce cinéma se sert du thriller, se sert du genre, se sert de ces effets de mise en scène très très forts, parfois outranciers, mais pour tenir un propos social qui est extrêmement acerbe et qui est d'une véritable violence comme on n'en avait pas vu depuis longtemps au cinéma. Et c'est ça que je trouve vraiment saisissant là-dedans. Lorsque Bong Joon-ho se voit remettre la Palme d'Or, ici, deux réalisateurs, c'est Clouseau et Chabrol. C'est vraiment les réalisateurs qui ont disséqué, avec une curiosité presque malsaine et goguenarde, la petite bourgeoisie et les rapports de classe. Et effectivement, on est très très loin de ces réalisateurs-là, mais l'intention... est la même, et j'ai l'impression qu'on parvient un petit peu à une espèce d'aboutissement de ce cinéma qu'on voyait déjà dans le transpersonnage avec ses wagons et les classes sociales une par wagon et qui se construit comme ça film après film. Voilà, je sais pas ce que...
Oui, je voulais juste revenir très rapidement, enfin rapidement, sur cet aspect de cinéma social qu'il y a dans ce film de Bong Joon-ho. ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il y a une sorte de jeu avec cet aspect social du film, qui est que dans la première moitié du film, on va dire, où il y a tous ces effets de parasitage de la famille pauvre, on va dire, sur la famille riche, on se dit, est-ce que c'est ça le propos social du film, finalement? Est-ce que ça se limite à ça? Et on se rend compte qu'en fait, on s'est complètement fait avoir et que ça va beaucoup, beaucoup plus loin dans la suite du film, dans la deuxième moitié.
Oui, puis il y a cette espèce d'éternel recommencement qui, sur lequel on se termine, qui est assez ravageur, on va dire, comme constat, d'une pauvreté qui, de toute façon, est vouée à se répéter, peut-être pas avec les mêmes visages, mais et j'évoquais cette scène où il y a une immense inondation. Et pendant que la famille pauvre est dans son entresol et voit toute la société qui se met la société comme un égout qui se mettrait à fonctionner à l'envers et à recracher des excréments par les toilettes et finisse à moitié noyée dans les excréments, et à côté de ça la famille riche qui se plaint de ce que leur week-end au camping a été annulé, et il y a une espèce de violence très très efficace dans des images qui sont effectivement très très bourrines, mais qui, étant servies par une réalisation quand même très très fine et un jeu d'acteurs dont il faudra reparler, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs assez impressionnants.
Le papa.
Voilà, le père qui suit Bong Joon-ho depuis Memories of Murder au moins, et qui signe à chaque fois une performance incroyable. Alors, j'ai oublié son nom, mais c'est vrai qu'il est très très fort en père paumé.
C'est clair.
Non.
Ils sont formidables. Enfin, tous. Enfin, c'est vrai que le père, en plus, a un visage, un physique remarquable. On le reconnaît. Et on sent dans son physique, il est abîmé par la vie. Donc, forcément, il est formidable pour ce genre de rôle. Mais juste, si je fais encore un détour pour ne plus parler des acteurs, mais pour continuer un peu sur le film social. Bon, sans trop virer dans l'analyse communiste, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette façon dont le film montre comment les parasites n'arrivent pas à vivre ensemble, ils n'arrivent pas à profiter du système en toute quiétude. Enfin, on aurait pu imaginer une fin formidable pour tout le monde au final. Et c'est comment... comment le moindre acquis de ces parasites est remis en jeu tout de suite et est perçu comme tellement important qu'il ne peut pas être, enfin qu'il n'est pas tolérable de voir un autre parasite avoir.
Je sais pas, mais pour rebondir sur ce que tu dis, peut-être qu'on peut déplacer. Moi, j'ai pas fait de lecture sociale du film au sens où, enfin, j'insiste pas vraiment dessus. Au sens où il m'a semblé que le mal, c'était là le point fort du film. Le mal, il semblait vraiment constitutionnel de tous les personnages. C'est immoral d'un bout à l'autre, c'est ce que je disais. Et finalement, on a l'impression que ça ressort d'une manière ou d'une autre, et indépendamment de la situation économique et de ses inégalités. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que finalement, moi je pense que ça m'a mis mal, parce que ça ancre un peu métaphysiquement le mal et l'inégalité, indépendamment de ses conditions de réalisation. Donc voilà.
Là, je suis pas trop d'accord, justement, parce qu'on a le personnage de la mère de la famille riche, qui est... un peu simple, on va dire, et un peu perché et gentil comme ça. Et il y a ce moment où la famille pauvre est sur le canapé et où la mère pauvre a cette phrase terrible qui dit qu'en gros, il n'y a que les riches qui peuvent être gentils. Et je trouve ça... C'est peut-être l'un des gros propos du film, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu disais, Colline, aussi, c'est que, enfin, pour le faire à grands traits, la lutte des classes, elle est inéluctable, parce qu'il n'y a pas de profit final possible pour, allons-y, les opprimer. Il y a l'éruption de violence qu'on sent monter pendant une heure et demie, elle est nécessaire, elle n'est pas volontaire en soi, d'ailleurs. C'est une éruption au sens le plus littéral du terme. Et quelque chose de viscéral là-dedans que je trouve effectivement très très fort, quoi.
T'as raison, en fait, tu m'as convaincu, je crois.
Aussi parce que juste, enfin, le profit qu'on pourrait appeler ruissellement, ben encore une fois, il se fait sous la forme d'un orage dévastateur, quoi. Enfin, mais je pense qu'il y a vraiment de ça dans les images que nous assène le réalisateur.
Juste peut-être, là on fait vraiment une critique sociale, machin, mais fondamentalement, c'est comme, pour moi, ça reste une comédie. Et c'est un film qui m'a fait énormément rire, que j'ai trouvé. C'est un film à l'aspect léger qui traite de sujets lourds, quoi. Et ça, je trouve ça complètement remarquable. Enfin, je voudrais juste ramener un petit peu le rire, qu'on pense pas que c'est une critique coréenne, acerbe, en noir et blanc. C'est pas du tout le ton du film.
Oui, parce qu'effectivement, on retrouve des situations toujours extrêmement cocasses, y compris vis-à-vis de notre situation de spectateur. Enfin, on se retrouve parfois dans des situations où on est en train de voir des gens qui voient cette espèce de voyeurisme dans tous les sens, qui est quand même assez amusant. Et puis... puis voilà, ces explosions un peu délirantes de violence qu'on aime bien voir dans ce cinéma aussi. En tout cas, Parasite, donc, de Bong Joon-ho, sorti mercredi dernier, il me semble, qui en tout cas était déjà présenté quelques fois en avant-première et qu'on vous conseille évidemment de voir, je pense.
Ah oui, totalement.
Ouais, c'est à faire.
100%.
Et on poursuit avec un second film, le prétendant malheureux à la Palme d'Or cette année, est signé Pedro Almodovar. Il s'appelle Douleur et Gloire.
Luis Alberto.
Me alegra que ya no le guardes rencor.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
No te reconozco, Salvador.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí.
Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
No voy a permitir que me humilles otra vez.
Tu tiempo, cabrón, ven aquí.
Sí.
Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida.
Estoy con Salvador Mayor.
Un peu émouvant rien que d'entendre la bande-annonce. Pedro Almodovar qui signe donc ce film, c'est compliqué à résumer, qui revient un petit peu sur, je le disais en introduction, ses angoisses de réalisateur et puis tous ses fondements de son cinéma. Évidemment, sa mère omniprésente en un film où il se filme lui-même, donc réalisateur Salvador Mayo, réalisateur en difficulté qui ne réussit plus à faire de cinéma, qui se met brutalement à l'héroïne pour tenter de dompter la douleur de son corps fatigué et réussir peut-être à se replonger dans sa jeunesse, dans son enfance, où il a rencontré ses deux grandes passions de sa vie, que sont sa mère et le cinéma, et puis qu'il rencontre comme ça, soit en souvenir, soit dans la vie, les personnages qui ont peuplé donc sa vie pour ce film, tout en raccord, tout en une espèce de grand patchwork de souvenirs et d'émotions extrêmement personnels, sans doute le plus personnel d'un réalisateur qui a quand même pour habitude de faire des films assez intimes, pour donc ce Douleur et Gloire. Alors, j'ai bien aimé, vous l'avez entendu, mais qu'en ont pensé les autres personnes autour de la table?
Bah, moi, j'ai déjà donné mon avis dans une autre émission parlant de cinéma, mais je crois que c'est un peu précisé avec le temps. Je crois que j'ai bien aimé ce qui était mon premier Almodovar, ce qui veut dire quand même pas mal de choses, parce que je n'avais pas les références dans lesquelles il tombait, je n'ai pas trouvé ça nombriliste. Je trouve que le film est très très agréable. Vraiment est très agréable et c'est magnifique. Enfin, les passages de flashback sont, je pense, les plus beaux passages de tout le film. Je trouvais ça très très beau, très touchant, et là je dis des choses plus générales et j'espère que les personnes qui vont venir après moi vont peut-être préciser un peu plus.
Mais c'est très bien. Colline.
Mais je ne l'ai pas vu, donc j'écoute votre avis, mais je ne participerai pas.
Mais nous ne sommes que tous les deux sur ce film.
Nous ne sommes que tous les deux sur ce film.
Alors effectivement, non mais tu parlais des passages de flashback, effectivement, ce film est construit autour de ces flashbacks du réalisateur qui se souvient de son enfance. Et c'est des flashbacks qui, je trouve que leur principal intérêt, enfin intérêt, plus que des flashbacks qui sont des espèces qui seraient des espèces de souvenirs un peu réifiés qu'on insère à grand renfort de technique, on a vraiment des espèces de tableaux très très vivants. C'est-à-dire qu'on les voit comme le réalisateur s'en souvient, plus que de façon un petit peu figée. Et qui sont vraiment là pour essayer de convoquer tous ces personnages dans ses souvenirs autour de lui. Et c'est ça qui est effectivement la très grande force du film, je trouve, c'est la fluidité avec laquelle on passe d'un flashback à une rencontre d'un personnage que peut-être on reverra plus, avec laquelle on passe entre les deux actrices qui jouent sa mère, par exemple, et qui, je veux dire, ça pourrait paraître complètement raté, complètement cocasse. Et finalement, il y a cette espèce on est vraiment dans une espèce d'intimité qui fait qu'on échappe à une certaine forme de réalisme. Je pense au début, quand il liste les maladies qu'il a, pendant 2 ou 3 minutes, on a des espèces d'images de synthèse ultra bizarres qui montrent des bouts de corps humain, puis on a tous les os, et ensuite on a tous les muscles, et puis ensuite on a... Et puis il finit par parler de la dépression avec des trous noirs reconstitués. Enfin bref, il se passe des trucs vraiment bizarres. C'est à la fois très très ludique, ça reste du Almodovar quand même. Et puis en même temps, c'est... On voit d'emblée que c'est un réalisateur qui se livre, et qui se livre complètement à nu, jusque dans ces scènes d'enfance qui sont effectivement vraiment magnifiques, comme tu le dis, qui sont servies par une Penélope Cruz qui, comme souvent, irradie absolument. Et oui, il y a quelque chose de très très fort dans une double déclaration d'amour à sa mère et au cinéma, comme un peu toujours, mais qui est d'autant plus belle qu'elle est fragile, je trouve.
Alors, je vais rajouter une troisième personne, je pense. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, et je vais encore parler de nu. C'est le maçon. Parce que pour contextualiser, à un moment, le jeune Almodovar est face à un maçon qui lui déclame des grandes leçons de vie. Et en fait, c'est là où il s'éveille fortement, parce qu'on peut dire que c'est le jeune Almodovar, à l'homosexualité. Donc, on ne sait pas si c'est un souvenir reconstitué ou la façon dont il a de s'ouvrir au corps des hommes. Et je trouve cette scène mais génialissime. Il y a ce passage, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien extrêmement presque charnel entre ce que regarde un moment le jeune Almodovar du maçon, le signe du regard qui est au-dessus de la ligne, un moment, en fait, on va dire, de la ligne de fracture d'un plan, et directement où se trouve le corps du maçon. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a vraiment frappé, en fait, au bout du deuxième renvoi. C'est que c'est extrêmement réaliste, et réaliste dans le sens agréable du terme, c'est-à-dire que on voit exactement ce qu'il est en train de voir du corps du maçon. Et c'est un lien qui est très charnel, je trouve, que aussi, et que ça se retrouve, en fait, peut-être après dans, en fait, les différents liens. Je trouve qu'il y a un sens de du lien entre les plans qui est très très forte, et moi qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois j'ai jamais la sensation de rupture, ce qui fait que même quand les flashbacks sont extrêmement différents en termes de ton que le moment de la vie réelle, qui est quand même franchement déprimant, c'est pas seulement oh là là il y a Penélope Cruz dans les deux scènes, on va faire un lien thématique, non, c'est des liens mais beaucoup plus ténus et beaucoup plus, je trouve, visuels, qui fait que ça marche incroyablement bien, en fait, sur ça.
Mais c'est exactement ça. Le film est servi par un montage qui est vraiment incroyable. Et c'est toujours ce que tu dis, c'est toujours très ténu, très fragile. C'est-à-dire que c'est de bout en bout extrêmement subtil. À tel point d'ailleurs que, enfin, je veux dire, vous avez entendu mes difficultés à résumer, il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a des rencontres, il y a effectivement ce personnage de maçon qu'on rencontre dans le passé, qui fait une petite résurgence dans le présent. Il y a le grand amour de la jeunesse du réalisateur qui apparaît, il y a un acteur de son grand film, ces personnages se mêlent comme ça, sa mère qui du coup est là un peu en filigrane. il se passe à proprement parler, enfin je veux dire, on part pas d'un point A, on n'arrive pas à un point B, mais ça tisse de façon très très fine une espèce de toile de souvenirs autour d'un personnage qui réussit vraiment à en épouser toute la profondeur et toute la fragilité, et c'est effectivement l'un des actes autobiographiques les plus forts que je crois avoir vu au cinéma à ce jour.
Moi je trouve que c'est un des actes les moins nombrilistes, en tout cas je l'ai pas ressenti, on me l'a pas asséné le... Pour reprendre une phrase de quelqu'un, un des thèmes les plus éculés de la littérature, c'est « j'écris ». Et là, c'est pas le thème éculé du réalisateur « je réalise ». Non, c'est pas du tout ça. Et c'est, moi, je pense que c'est une vraie réussite de film, c'est le fait que j'ai jamais senti l'ego d'Almodovar. Et d'après ce qu'on me dit, bah, que ce soit toi ou d'autres gens que j'ai entendu, c'est, ça respire son style. Bah, alors, ça veut dire que alors, ça veut dire que c'est un film réussi pour quelqu'un qui n'avait jamais vu d'Almodovar de sa vie. Enfin, je sais pas.
Eh bien, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus conclure pour vous conseiller le plus vivement du monde d'aller voir Almodovar. Douleur et gloire, c'est encore en salle cet été. Quelques conseils de sortie pour finir ce 122e numéro. Là, tout de suite, ça va vraiment être à trois collines, puisque la sortie de cette semaine dont on parle, c'est Sibyl de Justine Trier.
J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de moi, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom.
Tu liquides toutes tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tout ça fait pour certains d'entre eux, non?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Il te manque?
L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui.
Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple, avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça. Sometimes I feel... Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore?
I figured it was just a petite histoire.
Action!
I would just have to sit back and watch reality destroy things.
Contrôle-toi, s'il te plaît.
Ne me parle pas. Parle à Sibyl.
Sibyl, dis-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible.
Ne soyez pas contre moi, par principe.
Alors, Sibyl est psychanalyste ou psychologue, on ne sait pas trop. Elle décide un jour d'arrêter pour se remettre à écrire, laisse tous ses patients et finit malgré tout par reprendre une patiente, une jeune fille, une actrice qui l'appelle catastrophée un soir parce qu'elle attend un enfant d'un acteur avec lequel elle tourne et qu'elle veut avorter. Sibyl va se retrouver à s'immiscer petit à petit dans ce tournage en même temps qu'elle écrit sur cette histoire dont elle apprend les tenants et aboutissants petit à petit, et finit par se retrouver plongée à la fois dans cette histoire dont elle n'est plus vraiment que la thérapeute, et puis à se replonger aussi dans sa propre vie et ses propres difficultés à vivre. C'est un film assez surprenant d'ailleurs, dans la mesure où on s'attend vraiment à voir le face-à-face entre Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, face à face, que ce film n'est pas. C'est un film sur une femme, c'est un film autour d'une femme et porté par une actrice. Mais je te laisse peut-être en dire quelques mots, Colline.
Je ne serais pas aussi catégorique parce que Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel font quand même vraiment partie du paysage de ce film. Et sans eux, ce serait vraiment autre chose aussi. Enfin, je les trouve très bons, même si c'est effectivement Virginie Efira qui est au centre et qui illumine tout ce film. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce film, qui est très fébrile, qui est très sensuel, qui nous emmène vraiment dans l'inconscient de tous les personnages, en fait, c'est un peu ce que tu évoquais, ce rapport au passé de Sibyl, et toutes ces scènes de flashback qui sont construites en pointillés. C'est-à-dire que ça, c'est une astuce de réalisation qui, pour moi, a vraiment, vraiment effet que je voulais saluer à ce micro. Le fait d'avoir des flashbacks avec une très courte séquence, puis une séquence plus longue après un retour au présent, ce qui fait qu'on a l'impression de faire un voyage dans l'inconscient dans l'inconscient et les souvenirs des personnages, et que ce passé sous-tend vraiment tout le film et est en permanence dans leur mémoire, dans leur pensée, et qu'on comprend ce qui se passe, on comprend le présent, on comprend les choix que Sybille fait par ce passé qui infuse tout le film.
Effectivement, et je rebondis sur ce que tu disais sur tous les seconds rôles, parce que Virginie Efira est absolument impressionnante. C'est une très très grande prestation. C'est la première fois que je la voyais dans un premier rôle, et elle irradine réellement. Enfin, il y a Justine Triet s'en joue même à certains moments où elle lui fait volontairement jouer plein d'émotions face à son miroir comme une espèce d'audition. Mais ce très grand rôle est d'autant plus grand qu'il est entouré de second rôles vraiment impressionnants. Il y a un petit enfant qu'elle continue de suivre et qui livre ses secrets séance après séance. Il y a la réalisatrice qui est aussi tout en fragilité et en stress. Il y a celui qui semble être son mari. Il y a un certain nombre de personnages comme ça qui sont très très beaux et qui sont très très profonds, qui sont vraiment tous fouillés, qui sont tous très très travaillés. Il y a une direction d'acteur qui est impressionnante de Justine Triet. C'est vraiment rare de voir un film où les personnages ont tous une telle profondeur, et puis servi par donc l'interprétation de Virginie Efira, qui est vraiment saisissante sur ce film Sybille, qu'on vous conseille donc très vivement, et qui sera entre autres projeté jeudi 13 juin à 18h30 au Ciné-Club de la Fourmi. Du côté des festivals maintenant, deux festivals. Le festival des saisons Anabi du 12 au 18 juin 2019 au Comédia. C'est autour de l'été, donc ce festival saisonnier qui présentera un certain nombre de films japonais. Entre autres le nouveau film de Koji Fukada dont on avait parlé ici il y a un an, que vous pourrez retrouver donc au Comédia. Deuxième festival, j'en profite, il s'appelle Et pourtant elle tourne. C'est le premier festival de la région Auvergne-Rhône-Alpes dédié à la diffusion de films de réalisatrices qui aura lieu dans un certain nombre de salles lyonnaises, en particulier le Comédia, le Zola, les Alizés. Ça sera donc à partir de cette semaine, Et pourtant elle tourne dans un certain nombre de salles. Je précise aussi qu'on aura l'annonce du prix Lumière sans doute demain par l'Institut, donc surveillez bien, vous saurez de quoi sera fait le prochain festival Lumière. Et puis enfin, un film du patrimoine à voir ou à revoir, il sera projeté le 15 à 22h30 pour les Midnight Movies du Lumière Terreau. C'est Showgirls de Paul Verhoeven, film à scandale s'il en fut. Qui raconte l'histoire de Naomi Malone, sans famille, sans amis, sans argent, qui débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve, devenir danseuse. À peine arrivée, elle se fait voler sa valise par l'homme qui l'a prise en stop et perdue dans la ville. Elle doit son salut à une costumière au Cheetah, un cabaret, réputé de la ville, cabaret dans lequel elle va donc se retrouver plongée. C'est donc Showgirls, le 15 à 22h30.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I ain't got no gun and I'm coming out. Soldier!
Pour la 122e fois, vous écoutiez D'étoiles plein les yeux avec cette semaine Arthur Kramer, Titouan Joubert, Colline Lafontaine, Félix Barancier, Rémi Cerda. En régie, on remercie tout particulièrement Félix Barancy également, qui nous a assistés pendant toute cette émission. Et on vous souhaite bien sûr une très bonne semaine dans les salles obscures. Mais avant de se quitter pour l'été, il est temps de clore comme il se doit une belle quatrième saison de D'étoiles plein les yeux, dont on retiendra à nouveau de bien belles images. Depuis le poirier sauvage dont nous écoutons le splendide leitmotiv musical, en passant par l'hypnotique climax, la beauté déchirante du noir et blanc de Cold War, les excès fascinants de Lars von Trier et Paolo Sorrentino, et puis deux palmes d'or, une japonaise et une coréenne, porte-drapeau d'un cinéma asiatique si florissant, qui nous a aussi offert Les Éternels. Et puis enfin, Le silence des autres comme une balle qui claque dans cette année de cinéma. L'année prochaine sera au moins aussi belle, à en croire les premiers aperçus qu'on peut en avoir. Mais en attendant, place donc à l'été, aux projections en plein air ou aux salles désertes, comme autant de refuges contre l'étouffement. Un refuge qui s'est prolongé pour moi pendant 4 ans en cette émission, créé dès mon arrivée à Transistor, que je referme une dernière fois avec toutes ces voix à qui j'aurais eu le plaisir de tendre le micro cette année. Juliette Meul, Maë Burla, Muriel Kenley, Caroline Hildebrandt, Occitane, Lacurie, Thomas Brunel, Félix Barancier, Lyro Fast, Marie Lécuyer, Marie Douniac, Martin Touzeau, Arthur Kramer, Colline Lafontaine, Mathilde Picard, Flora Lecomte et Titouan Joubert. Je remercie évidemment Mathilde Grasset qui m'a accompagné pendant toute cette année, et puis également les Cinémas Lumière qui ont été notre partenaire fidèle pendant toute la saison.
Tout le monde est mort de rire en se mariant, on se promet de rester toute la vie ensemble, et c'est une grosse blague quoi, et donc on ne croit plus en rien.
Si oui, c'est facile de tomber dans notre garde occidentale et dire « Ah, c'est vraiment grotesque, on rigole, c'est vulgaire, etc. » Mais en fait, moi, ce que j'y vois, c'est que c'est tout aussi grotesque.
Et on est assommé par cette structure un peu romanesque du personnage. Et en effet, au début, on se dit
« D'étranges zombies, un petit peu redneck sur les bords, touchés par les essais nucléaires de ce contexte. »
De paradis perdu, mais qui en fait en est pas un parce qu'il est placé sous le signe de l'exploitation, et après on change d'univers avec un truc beaucoup plus urbain, mais on reste dans l'exploitation, donc...
Ce qui nous avait beaucoup habitués dans les films précédents, vraiment des sortes de fulgurances esthétiques, je pense au dernier film.
Et en même temps, les émotions, elles sont hyper puissantes par la force de suggestion de tout ce qu'on a dit, des sons, des images...
Et en fait, on a presque envie, comme tu dis, que les personnages se tèchent, c'est-à-dire que...
Ça montre une certaine dérision par rapport au fait à ce casting de ouf où il fait très clairement « vous avez l'habitude de les voir dans tel film, ces films, finalement...
» Et la ville est comme ça recouverte d'une espèce de traînée de poudre noire, et la lune est violette et...
CF, cette image de même, lui, au milieu d'une galaxie, quoi.
On comprend pas, on pensait que c'était l'objectif du film, et tout à coup il repart sur autre chose, la relation père-fils, et à la fin...
Et je trouve que c'est un film très beau, on voit pas passer l'heure et demie de film.
Entre une super spiritualité et quelque chose de très terre-à-terre, comme on disait.
Quand ces deux personnages vivent à l'écart dans ce qu'on appelle la wilderness américaine.
Et ça cassait un petit peu tout ce qui aurait pu faire la magie de ce film qui pourtant...
Et incarné là aussi avec une espèce de retenue et de douleur qui sont vraiment phénoménales quoi. Et après le cinéma, on passe à la littérature, place aux yeux, ont des oreilles.